Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha. Quick guy.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Bienvenue à tous sur les antennes de Touchdown Actu pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité de la draft et des prospects NFL à venir, avec une QV 2021 qui prend forme à l'heure de la clôture des inscriptions pour la Grande Ligue. Et lors de ce podcast, on reste dans les tranchées, puisqu'après les linemen offensifs intérieurs, on s'intéresse aujourd'hui aux linemen défensifs. Trois bulldozers, Christian Barmore, Jay Toufele et Davion Nixon auront les honneurs de cette première chronique. L'état des franchises nous amènera à parler des Houston Texans et des Atlanta Falcons. Enfin, on terminera bien entendu par nos pépites en compagnie de celui qu'on peut appeler le Daniel Jeremiah de l'équipe, celui qui connaît déjà les prospects de la QV 2024, monsieur Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Grégory. Bonjour tout le monde.
Alors du coup, on va entamer dès à présent donc sur les lignes défensives notamment. On sait qu'il n'y a pas des très gros prospect, en tout cas à l'heure actuelle, attendu au premier tour, mais en tout cas il y a un groupe assez homogène, donc ça va être intéressant de débriefer tout ça et de s'intéresser ensuite donc au troisième choix de draft entre guillemets, hein, parce qu'on sait que les Texans ont cédé, puis au quatrième choix avec les Falcons. On commence dès à présent avec la chronique Le Tu Préfères, consacrée donc au lineman défensif.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Donc trois joueurs passés au peigne fin aujourd'hui, Jean-Michel. J'en parlais. Donc Christian Barmore, lineman défensif d'Alabama. Je vais en profiter pour redonner les stats en même temps. Tout cela est donné dans l'ordre alphabétique, hein, sans afficher ouvertement nos préférences. Donc Christian Barmore en 2020, c'est 37 plaquages cumulés, dont 9,5 pour perte, 8 sacs, 3 passes défendues, ainsi que 3 fumbles forcés. On a également Davion Nixon, le defensive tackle d'Iowa, qui reste sur une saison à 45 plaquages, dont 13,5 pour perte, 5 plaquages et demi avec également un pick six au compteur. Et puis Jay Toufele, donc lineman défensif de USC, qui a choisi de se mettre en retrait cette année par rapport à la situation liée au Covid, mais qui restait sur une saison en 2019 avec 41 plaquages, donc 5,5 pour perte, et 3 sacs et demi, ainsi qu'une passe défendue. Jean-Michel, pas mal de profils. On a décidé de retoiletter un petit peu l'organisation de cette chronique pour que ce soit un petit peu plus synthétique encore pour nos auditeurs. Je te propose donc une chose pour présenter les différents profils. Si tu devais déterminer un adjectif pour chacun de ces joueurs, si on commençait par Christian Barmore, quel adjectif te viendrait en tête?
Puissant. La puissance, voilà, tout simplement. Et quelque part, c'est ce qu'on demande en priorité en defensive tackle, être puissant. Et ça, c'est tout Christian Barmore. C'est-à-dire que dans la 4-3 d'Alabama, il joue au centre, il est en plein milieu et il perturbe tout ce qui se passe. Il perturbe que ce soit la course, il perturbe avec son bull rush en enfonçant la poche. il a quand même fait 8 sacs. Je veux dire, on parle d'un defensive tackle, pas d'un defensive end qui déborde sur l'extérieur. Non, lui, du centre, il fait 8 sacs. Donc vraiment, si je dois choisir un adjectif, c'est puissance.
Ouais, très clairement. Et puis, pour compléter ce que tu dis, on parle quand même d'un lineman défensif qui, en effet, a ce rendement-là sur une ligne défensive où il y a énormément de rotation. Donc, ouais. En plus, je ne vais pas pousser le vice jusqu'à dire qu'il a moins joué que ses compères sur les dernières saisons que j'évoquais. Mais en tout cas, voilà, il n'y a peut-être pas un nombre de snaps autant étendu que ce qu'on peut retrouver sur d'autres prospects intéressants sur la position. Et c'est ce qui rend en effet Barmore extrêmement intimidant, et extrêmement puissant. En l'occurrence, Devion Nixon, c'est un peu le petit nouveau de cette bande, on va dire, celui qui a vraiment explosé cette année, joueur sorti de Community College. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu le vois jouer ?
Athlétique. Voilà, très athlétique. Et en même temps, tu vois, je me suis amusé à aller sur YouTube et là, j'ai vu des vidéos de lui au lycée en train de planter des dunks. Voilà, on parle quand même d'un gars qui fait 140 kilos. Alors bon, au lycée, il en faisait peut-être 20 de moins, mais voir un gros gabarit comme ça qui claque des dunks, c'est impressionnant. Et ça se retrouve sur le terrain de football. Il est très, très athlétique, que ce soit dans ses changements de direction, que ce soit dans sa façon de courir après un coureur. Voilà, il est très athlétique.
Ouais, et puis il sort d'une fac quand même où on a quand même l'habitude de bien façonner, on dirait, l'admin défensif. On pense à J.P. Nessa, par exemple,
exactement,
qui est sorti l'année dernière. Donc, c'est pas complètement un hasard de le voir émerger dans cette défense, notamment des Hawkeyes. Joueur qui apparemment se perfectionne par le biais de Madden. C'est ce que j'ai vu passer.
Oui, j'ai vu ça aussi. Oui, exactement.
Donc, c'est bon à savoir pour les années à venir et pour la franchise qui le récupérera. Le troisième profil, donc, Jay Tufele, joueur de USC. Je lui disais, joueur qui n'a pas joué en 2020. Qu'est-ce qu'on peut en dire quand même de son profil par rapport à ses deux camarades ?
Ben moi, si tu me demandes un adjectif, je vais te dire rapide ou rapidité. C'est vraiment ce qui est impressionnant avec lui. C'est la capacité au basket, on parlerait de premier pas. Voilà. Mm-hmm. Un premier pas explosif, il est très rapide pour quand il arrive à faire la différence, on en parlera ensuite parce qu'il la fait pas toujours, mais quand il arrive à faire la différence, mais il arrive à la missile sur le quarterback, il est très très rapide.
Ouais, très clairement. Alors, on va évoquer tout à l'heure les profils, en effet, notamment les systèmes, hein, qui seraient les plus intéressants. Je commençais un petit peu à en parler tout à l'heure. On a, en effet, une classe de lineman défensif où c'est encore difficile d'identifier un joueur du top 30. À mon sens, en tout cas, on est peut-être plus à l'heure actuelle sur vraiment des gros profils de début de deuxième tour, si je peux anticiper un petit peu. Tu vas me dire tout à l'heure, c'est… Ah, d'accord. Okay.
Ouais.
On va redévelopper ça tout à l'heure. En attendant, du coup, sur ces trois profils-là, vu que c'est encore des joueurs qui restent un peu en retrait par rapport au reste du plateau, qui pour toi présente la marge de progression la plus intéressante, la plus excitante en tout cas ?
Bah, de prime abord, j'aurais envie de dire Jay Tufele, vu qu'il n'a pas joué en 2020, donc forcément une saison en moins. Mais non, moi je dirais Davion Nixon. Parce que justement, il a progressé les deux dernières saisons. Et je trouve que Détroit, c'est celui qui a le package le plus complet. Un mix de puissance, de qualité athlétique, de technique aussi, hein, comme tu l'as dit, il vient d'Iowa. Et pour moi, c'est vraiment celui qui peut, disons, dans 2 ou 3 ans, s'imposer en NFL.
Et du coup, si on en revient… qui pour toi a peut-être déjà atteint son plafond le plus rapidement ?
Barmore.
Plutôt Barmore ?
Ouais, je pense Barmore. Ouais. Moi, je pense que ce qu'on voit de Barmore aujourd'hui, c'est ce qu'on aura. Et c'est déjà très bien. Hein. Mm-hmm. Mais il va progresser un petit peu, évidemment. C'est pas ce que je dis, il est jeune, etc. Mais moi, je pense que Barmore est déjà à peu près au niveau de son plancher et de son plafond.
C'est ça. Et il est que redshirt sophomore, hein, il me semble.
Oui, c'est sûr. Et comme tu l'as dit, avec Alabama, il y a une telle rotation depuis des années sur la ligne. Je veux dire, il y avait Quinn Williams, il y avait etc. Il jouait pas beaucoup.
En fait, si tu veux, c'était pas son. Enfin, bah, c'était aussi pour dire justement par rapport à ce que tu évoquais, ce plafond-là. C'est vrai que Quinn Williams, dans pareille situation, il était annoncé numéro 1 de la draft. Donc encore une fois, c'est pas être réducteur par rapport à ce que propose Barmore. Mais oui, c'est sûr qu'encore une fois, même si il n'a pas forcément autant performé que ce qu'on pouvait, même s'il n'a pas pu prouver sur les 3-4 années de college football, il y a une bonne base, mais peut-être pas non plus suffisante pour arriver au niveau de joueurs plus aguerris et qui sortent à l'issue de leur saison junior ou senior. Quoi.
Après, pour moi, c'est plus le potentiel athlétique. Quand on parle de Quinnen Williams, bon, ce qu'il a réalisé à Alabama, ok, c'est une chose, mais c'est surtout qu'on voyait un potentiel énorme. Mmh. Et d'ailleurs, il n'a pas encore tout montré en NFL. Il va aller plus haut que ce qu'il fait maintenant.
Oui, on a vu de meilleures choses cette année, voilà. Clairement.
Alors que Barmore, ben, je vais pas dire qu'il est limité athlétiquement, évidemment, c'est une bête, hein, mais c'est pas du tout le même potentiel athlétique. C'est pour ça que je pense que il est pas encore tout à fait accompli, mais il ira guère plus haut, je pense.
Alors, si on s'intéresse au système NFL qui paraissent les plus adaptés, on sait que c'est la grande question qui revient notamment avec les domaines défensifs. Dans quel schéma, concrètement, on peut en tirer le plus? Est-ce qu'il y en a qui reviennent? Est-ce que tu vois plus de la 34, plus de la 43, plus un rôle de defensive tackle classique ou plus écarté? Qu'est-ce qui te paraît bien? Encore une fois, dans l'ordre, si tu prends Barmore, Nixon, Toufele, qu'est-ce qui te paraît correspondre?
Écoute, moi, je vais te proposer les trois, en fait. C'est-à-dire que Barmore, moi, je le vois davantage dans une 43. Mm-hmm. Alors, je sais qu'il joue dans une 34 à Alabama, mais il joue la plupart du temps au centre dans une 34. Mais en NFL, ça passera pas. Il a pas non plus le gabarit pour faire ça. Et donc, je le vois très bien dans une 43 au niveau NFL.
Ouais, je me permets. Est-ce que pour toi, il présente les mêmes interrogations qu'à Raekwon Davis l'année dernière? Sur lequel on avait les mêmes questions fondamentales, qui jouait dans une 34. Alors, on a vu qu'à Miami, il s'en est pas trop mal sorti.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai qu'on pouvait s'interroger sur le potentiel de defensive tackle. Est-ce que pour toi, il y a des similitudes qui ressemblent ou est-ce que, bon, je m'égare un peu et que c'est pas forcément à propos?
Non, je dis pas que tu t'égares, mais je pense que le gabarit est pas du tout le même. Donc, c'est plus au niveau du manque de gabarit, même s'il est puissant, je le redis encore une fois, au niveau NFL, ça suffira pas. Je le vois pas seul en obstacle.
D'accord. C'est la charge de travail qui risque de lui peser un peu et où il a besoin, justement, à l'instar de ce qu'il a à Alabama, de pouvoir souffler ou en tout cas d'avoir un petit peu plus de brèche par le biais de partenaires à côté de lui. Quoi.
C'est ça, d'avoir quelqu'un à côté de lui. Ouais, exactement. D'accord. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais.
T'allais enchaîner du coup sur Nixon?
Oui, alors je vais enchaîner sur Toufele d'abord pour te dire que lui, je le verrais davantage en 34.
Ouais.
Voilà. C'est-à-dire que lui, justement, on vit qu'on parlait de rapidité. Au départ, il fait un peu penser à Quinnen Williams. Bon, après, il faut pas abuser, c'est pas non plus à ce niveau-là. Donc, si je prends une comparaison, je vais dire c'est plus un Stephon Tweed des Steelers.
D'accord.
Et donc je le verrais moi très bien dans un système comme ça en 34. Donc au niveau du guard adverse et je le verrais bien là faire marcher son premier pas pour essayer de déborder. Ouais, alors que Nixon, ah vas-y.
Non, pardon, je veux pas te couper à chaque phrase, mais c'est juste pour le parce que du coup j'ai pas posé la question par rapport à ça, mais si on compare les trois hommes,
ouais.
Toufele pour toi c'est le meilleur pass rusher du lot?
Oui, je pense. Je pense, même si moi j'aime beaucoup Nixon, hein, mais je pense qu'en pur pass rusher, oui, je pense que c'est Toufele.
Oui, c'est ça. Moi. Peut-être que Nixon est un peu plus complet et que Toufele est vraiment sur le côté vraiment pass rush et peut-être plus dominant que les deux autres qu'on a cités. Vas-y,
plus explosif.
Ouais, je te laisse reprendre. Excuse-moi, vas-y.
Bah, en fait, je voulais parler de Toufele avant parce que je voulais dire que je le verrais bien en 34, bon, en défensive end 34, comme on peut le voir aux Steelers, aux Ravens ou à Tampa Bay, par exemple. Et je voulais finir par Nixon parce que lui, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que je le verrais bien à la fois dans une 34 et à la fois dans une 43. Je le verrais bien à l'intérieur en defensive tackle avec quelqu'un à côté de lui, quelqu'un peut-être d'un petit peu plus, un peu plus obstacle justement, un peu plus dominant. Ou alors je le verrais bien dans une 34, comme on peut le voir aux Packers par exemple, un peu à la Kenny Clark par exemple. C'est-à-dire qu'il jouerait pas forcément tout le temps en obstacle, mais il peut se décaler en defensive end. Moi je le vois faire les deux.
Ouais, je te rejoins globalement. C'est vrai que. Ouais, j'étais plus parti sur defensive tackle, mais oui, en effet, defensive end de par la variété, le panel assez large qu'il arrive à proposer, et puis ouais, il a quand même un gabarit assez intimidant en effet, vraiment qui lui permet d'être hyper explosif quelle que soit la situation à ses côtés. Mais c'est sûr qu'avec éventuellement un gros obstacle à côté pour permettre d'obtenir des double teams et lui laisser justement plus de liberté d'expression. Je te rejoins, je pense que ce sera pas une mauvaise opération, une mauvaise affaire pour l'équipe qui le récupérera. Je crois savoir que tu avais pris quelques petites comparaisons sur les trois hommes, lesquelles sont-elles?
Oui. Alors bon, voilà, c'est toujours pareil, c'est pour donner une image aux auditeurs. Tous les joueurs sont différents, mais donc Toufele, donc j'ai évoqué déjà Stephon Tweed des Steelers. 34 defensive end. Moi, je trouve que les deux ont pas mal de similitudes dans leur vitesse, dans leur façon de déborder comme ça à l'intérieur avec beaucoup de rapidité, d'explosivité. Pour Barmore, moi, je vois bien un style Larry Ogunjobi des Browns.
Ouais.
C'est-à-dire un defensive tackle qui est pas le plus explosif, mais qui est puissant, qui est solide, qui tient bien ses alignements à l'intérieur. Et Quentin Dixon, c'est un joueur, en fait, ça fait 2 ans que malheureusement on le voit plus à cause des blessures, mais quel joueur c'est? Moi, il me fait penser à Kawhan Short des Panthers. Voilà. Un joueur vraiment avec ce mix de puissance et de qualité athlétique qui est capable de déborder plus ou moins à l'intérieur, plus ou moins à l'extérieur et de vraiment faire la différence. Il me rappelle ce joueur, Kawhan Short.
Alors du coup, je ne sais pas si ça a vendu la mèche à nos auditeurs, mais du coup, dans quel ordre tu les hiérarchiserais du coup?
Moi, je mets Nixon en premier.
Et oui, je le vois. On sent que t'as un petit crush.
Ouais. Le petit chouchou, effectivement. Ouais. Et tu vois, moi, je le vois bien au premier tour. Hein. Et même assez haut. Hein. Je veux dire, même dès le pic des Raiders, par exemple, pour moi, il est en jeu déjà. Hein.
Ouais. Et après, tu mettrais Barmore devant Toufele, si je te suis.
Ouais, exactement. Je mettrais Barmore devant Toufele. Pourquoi? Parce que Barmore me paraît déjà plus accompli. Toufele, c'est dommage qu'il n'ait pas joué en 2020. Et puis, Toufele, pour l'instant, de ce que j'en vois, il est assez unidimensionnel. Alors certes, c'est une dimension extrêmement importante puisque c'est celle du pass rush. Mais pour l'instant, je trouve qu'il a encore il a du développement à faire. Donc oui, pour moi, ça serait Nixon, après Barmore et après Toufele.
Ouais, c'est ça. Alors après, c'est vrai sur les petits points négatifs, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on a le temps de revenir un petit peu là-dessus, de développer. C'est vrai que Barmore n'a pas une variété, je trouve, énormissime de moves. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il joue beaucoup sur le côté physique, pénétration en effet, mais c'est vrai que si le plan A fonctionne pas, ça peut être assez compliqué. Et en effet, Toufele, c'est peut-être une petite inconstance que je lui trouve sur l'ensemble d'une rencontre, parce qu'on voit le potentiel athlétique du bonhomme, on voit qu'il est capable sur un jeu de faire une différence énorme. Maintenant, c'est sur l'ensemble d'un match où on a peut-être l'impression que par fatigue ou par peut-être d'autres aspects de son jeu, ça peut éventuellement piocher par rapport à ça. Toufele, qui soit dit en passant, pourrait être le premier joueur de USC à être drafté au premier tour depuis Leonard Williams. Ça commence à remonter, parce qu'en l'occurrence, c'était au tout début de la draft 2015.
Oui, c'est clair. Et il manque un petit peu de variété aussi, je trouve, dans ses moves. Voilà. Il est très bon en swing move, il a un premier pas très rapide, donc souvent ça fait la différence. Mais en NFL, il faudra qu'il varie un peu plus ses moves, quoi.
C'est sûr. Du coup, dans ces trois-là, tu mets les trois au premier tour, potentiellement,
non,
à l'heure actuelle?
Moi, j'en verrais bien deux. Je verrais bien Nixon, comme je t'ai dit, à partir d'entre 15 et 25. Ouais. Je verrais bien Barmore vers la fin. En fin de premier tour, pourquoi pas? Surtout qu'il y a des équipes qui peuvent être intéressées. Je pense aux Packers, par exemple. Par contre, Toufele, moi, je le vois davantage au deuxième tour. Alors, il serait pas inintéressant, par exemple, tu vois, à Détroit, à côté de Penicini, qui est justement, lui, plus costaud. Il serait pas inintéressant non plus sur une 34 avec les Cardinals. Mais je le vois plus, voilà, en milieu de deuxième tour.
C'est ça, une possible bonne affaire à faire un peu plus tard, mais pas forcément un joueur sur lequel tu miserais ta maison, comme on aime bien dire.
Non, là, je miserais plus ma maison sur Nixon. Ah ouais.
c'est ce que j'avais bien compris. Écoute, en tout cas, on laissera les auditeurs se faire leur idée. On rappelle, hein, malheureusement, que bon, a priori, il n'y aura pas trop de combine pour se faire une idée et pour comparer directement les trois hommes. Ce sera plus du pro day, notamment, et puis les interviews, bien entendu, durant le processus draft. Mais voilà, n'hésitez pas à aller vous faire une idée vous-même. Il y a quelques vidéos qui traînent notamment sur les principaux prospects et sur certaines rencontres qu'ils ont pu jouer au cours de ces derniers mois. On a donc terminé avec la première partie. On s'intéresse désormais à l'état des franchises en parlant de Houston et d'Atlanta.
Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU.
L'état des franchises, donc, et après avoir abordé les Jacksonville Jaguars et les New York Jets avec certaines priorités en termes de postes à considérer, voire de profils qui correspondent au poste en question, on s'intéresse donc au numéro 3 et au numéro 4, alors pas de la prochaine draft, mais en tout cas les 3e et 4e plus mauvaises équipes comptablement de la saison passée. Et on va commencer, Jean-Michel, par les Houston Texans qui ont donc cédé leur 3e choix en Miami Dolphins. Ça va aller relativement vite, on va pas le cacher, pour les Texans. On a fait 5 choix pour les Jaguars et pour les Jets la semaine dernière. Là, la gestion Bill O'Brien a laissé des séquelles. Du côté du Texas, il fait une super grimace. On sent que tu compatis pour les fans de
Texas. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Bon, au moins, la Rémi Tunsil joue bien. C'est déjà ça.
Ouais, c'est ce qu'on va dire. En tout cas, on l'avait dit lors de la semaine dernière, c'est vrai qu'on s'intéresse principalement aux trois premiers tours de la draft, où on retrouve notamment les principaux joueurs qui peuvent performer à court ou moyen terme pour avoir un impact d'emblée sur l'équipe. Forcément, pour Houston, on a bazardé un premier tour, on a bazardé un deuxième. On se retrouve donc sur un début de troisième tour à considérer pour les Texans, et il va falloir le considérer bien comme il faut, il va falloir vraiment bien se poser les questions. Et j'ai presque envie de te dire d'emblée, Jean-Michel, est-ce qu'il faut considérer autre chose que la défense, vu ce qu'on a vu cette année du côté de Houston?
Ben non, a priori non, parce que c'est vraiment la défense le problème. C'est vrai qu'on parle beaucoup du trade catastrophique de DeAndre Hopkins, mais c'est vraiment par la défense que Houston a été aussi nul. Parce que si on regarde la passe, je veux dire, Deshaun Watson a fini meilleur lanceur, je crois, en NFL. Donc je veux dire, l'attaque aérienne a bien fonctionné, mais par contre la défense était catastrophique, et notamment la défense contre le jeu au sol. Je me suis intéressé hier, écoute, sur 16 matchs, il y a 8 coureurs qui ont dépassé les 100 yards contre Houston. 8 sur 16. Et attends, je compte pas les 95 de Samaje Perine, ni les 99 de James Robinson des Jaguars. Donc il y a quasiment 10 sur 16, enfin c'était incroyable. Donc forcément, oui, la défense. Et après, ça dépend de quelle direction ils veulent prendre, parce qu'ils ont aussi des besoins en couverture aérienne, avec notamment des free agents comme Vernon Hargreaves. Et donc, est-ce qu'ils vont prendre un cornerback? Est-ce qu'ils vont prendre plutôt un obstacle? Puisque là, on l'a vu, c'était vraiment évident. Ils ont souffert de la perte de DJ Reader l'année dernière, qui est parti aux Bengals. Donc,
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Moi, avec ce troisième tour, vraiment, je vois deux solutions. C'est soit tu prends un gros obstacle, style Tedarrell Slaton, dont on avait parlé déjà, ou Tyler Shelvin, ou tu prends un cornerback. Et là, je pensais à Israel Mokuamu.
Ouais, je te rejoins, parce que c'est vrai, pour en avoir parlé en off, on se posait la question, parce qu'il y a le poste de cornerback, il y a le poste de free safety aussi, ou de mémoire, c'est Eric Murray, je crois, qui était le principal titulaire. Bon, qui est un cornerback d'ailleurs reconverti, hein, de mémoire, ouais. L'ancien de Minnesota. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si c'est plus sur le poste de corner ou de free safety qu'il va y avoir des questions à se poser, sachant que sur les extérieurs, bon, ils ont Bradley Roby, ils ont Lenny Johnson qui traîne un petit peu, qui laisse un peu traîner les mains, mais qui a laissé entrevoir quelques petites promesses, éventuellement.
Ouais.
Maintenant, est-ce qu'avec un troisième tour, tu compenses forcément tout de suite son impact? Moi, j'avoue que je te rejoignais globalement sur Mokuamu. C'est vrai que il y a un profil corner safety que je trouve assez intéressant. C'est un joueur qui est déjà, je le vois un peu plus safety dans le côté agressivité au niveau du jeu. Je trouve que c'est un joueur qui a une certaine réactivité, qui sait couvrir en tout cas une large partie du terrain. Et je pense qu'en termes de support sur la couverture, ça peut être un joueur qui peut faire beaucoup de bien. Et je le pense plus à l'aise dans ce genre de registre que vraiment en un contre un en NFL. Et c'est là-dessus où je te rejoins. Après, très franchement, on le met de corner ou safety. En tout cas, je pense qu'il y a quand même une bonne base sur laquelle on peut travailler. J'avoue, je m'étais posé la question du linebacker. Il me semble que Bernardrick McKinney a été blessé cette année.
C'est ça, oui. Ouais,
voilà,
ouais.
Donc ça conditionne un petit peu la chose. Après, je suis pas sûr que le cap de Houston soit monstrueux.
Non, il est pas terrible, non.
Voilà, avec Tyrell Adams également,
qui est free agent
aussi. Ouais. Je m'étais posé la question d'un run stopper pur pour la lignée à côté d'un Zach Cunningham un peu plus polyvalent. Et c'est vrai que des profils sur un troisième tour comme Jabril Cox d'LSU ou Chas Surratt, notamment de North Carolina, ça peut être éventuellement des éléments intéressants à développer. On rappelle que à l'heure où on enregistre cette émission, on ne connaît pas encore le head coach de Houston, donc c'est difficile d'avoir une vision claire là-dessus. Mais bon, c'est voilà. C'est, en tout cas, faut vraiment réussir à contenir le jeu au sol, je pense. Donc, comme tu disais, ce sera nose, linebacker ou defensive back. On va dire un defensive back en tout cas qui peut contribuer dans la boîte.
Oui, ça serait une bonne chose, ouais, effectivement, ouais. Et peut-être une quatrième option, ce serait peut-être un garde offensif aussi.
Oui, oui.
Parce que la ligne offensive, elle a concédé quand même 50 sacs l'année dernière. 50. Donc, a priori, bon, c'est pas trop passé du côté de Tunsil. Titus Howard a été un petit peu gêné par des blessures, mais il a fait relativement une bonne saison. Par contre, à l'intérieur, je pense que ça serait pas mal d'ajouter un bon guard. Ils ont Nick Martin, ils ont Max Schrapping, mais ça serait bien de mettre un bon profil à côté, quoi. Un troisième gars.
Ouais. La surveiller sera une option éventuellement intéressante. Pourquoi pas pour un quatrième tour par exemple, s'il se concentre sur un troisième tour, parce que c'est vrai que bon, forcément de par la chronique, on se concentre sur le troisième. Mais voilà, c'est sûr que pour Houston, il y a tellement peu d'opportunités qu'on peut se dire tiens, au début quatrième, il y a peut-être une possibilité à exploiter en l'occurrence. Mais oui, le chantier va être vaste et je pense que les fans des Texans n'ont pas attendu ce podcast pour le découvrir. Un autre chantier assez vaste, avec un cap tout aussi délicat, mais en l'occurrence un quatrième choix de draft, ce sont les Atlanta Falcons. Là aussi, il y a pas mal de directions possibles, notamment en défense. Et alors, on a choisi un petit peu à l'instar de ce qu'on avait fait avec les Jets la semaine passée, de partir sur deux scénarios possibles. Un scénario quarterback, un scénario sans quarterback. Il y a des rumeurs qui persistent malgré tout sur la possibilité d'un départ de Matt Ryan. On va partir quand même du postulat que Arthur Smith, le nouvel head coach, est fan de Matt Ryan et qu'il garderait son quarterback pour la saison prochaine. Quelles sont pour toi les priorités, mon cher Jean-Michel ?
Ah ben comme tu dis, c'est la défense. Hein. Et même s'ils ont pris Terrell au premier tour l'année dernière, moi je pense que déjà un cornerback, ça serait pas du luxe. Donc avec le choix 4, a priori, tu as quelqu'un comme Patrick Surtain. On l'a vu avec Alabama et c'est vraiment il a tous les attributs du shutdown corner. D'ailleurs l'année dernière, je pense que si vous regardez ses stats, elles vont pas vous affoler, mais c'est parce que justement les quarterbacks adverses évitaient de lancer de son côté. Il est grand, il est athlétique, il a un très bon QI football. Bon, c'est pas un hasard, son père était joueur NFL et il a vraiment tout ce qu'il faut. Et avoir quelqu'un comme ça, moi je pense que ça pourrait vraiment solidifier le backfield. Après, l'autre option, évidemment, ce serait un pass rusher. Donc, à voir. C'est vrai que cette année, la classe est pas folle. Donc, il y a des questions autour de Grégory Rousseau, par exemple, qui avait fait une saison 2019 extraordinaire, qui a le physique, quand tu le vois, on dirait qu'il est né pour jouer cette position. Seulement, il a pas joué en 2020. Et en plus de ça, il n'y aura pas le NFL Combine. Donc, il y a des questions à se poser pour lui avec le choix 4.
C'est ça, il y a toujours cette interrogation concernant le fameux facteur One Year Wonder, ou en l'occurrence, du côté de Grégory Rousseau, on a vu sa super saison Redshirt Freshman, et derrière, plus grand-chose. Donc, c'est sûr que c'est plus de 15 sacs, il me semble, au compteur.
C'était entre 15 et 16, avec des demi quelque part. Mais
Donc, l'impact est négligeable, surtout que ce n'était pas le seul pass rusher capable d'apporter de la pression du côté de Miami. Mais il va falloir un petit peu plus se rassurer, et c'est vrai que ça va être un gros point d'interrogation. En l'occurrence Grégory Rousseau. Après, je pense que c'est une question de système aussi, hein. À l'heure où on se parle, on ne sait pas trop si ce sera une 43 ou une 34. Même si je ne serais pas étonné que ce soit une 34 vu les noms qui commencent à sortir sur le poste de coordinateur défensif, ce qui pourrait correspondre à Rousseau. Très franchement, on sait que Rousseau est payé, on en parlait, en tout cas Victor en parlait il y a quelques semaines de ça. Entre les deux, je vois quand même plus Rousseau à l'aise dans un rôle de edge rusher linebacker que peut l'être un Quitty Pay par exemple.
Oui, moi aussi.
Si Atlanta choisit de drafter un petit peu plus tard, un Aziz Ojulari de Georgia ou j'ai oublié son nom bien entendu. Au deuxième tour, je pensais plus à un Patrick Jones de Pittsburgh par exemple. C'est pas des profils qui seraient déconnants en tant qu'outside linebacker.
Ah non, pas du tout. Un passage en 34, ce serait pas mal peut-être pour Atlanta. Moi, je pense à Marlon Davidson par exemple. C'est quelqu'un que je verrais vraiment bien en defensive end dans une 34.
Moi je le voyais bien en defensive end aussi. C'est vrai que le fait qu'il soit recentré un peu, bon, c'est vrai qu'il n'a pas été épargné par les blessures, mais oui, en poste de 34 en effet, enfin DN 34, je pense que ça peut correspondre à ses aptitudes et en effet être une bonne chose, mais ça restera encore à déterminer. Mais défensivement, oui, ça peut être une des clés. Également ce poste de cornerback. Est-ce qu'en attaque, tu voyais, il y a forcément la question de du running back?
Eh oui, oui, puisqu'on parle d'Arthur Smith, donc qui vient de Tennessee avec Derrick Henry. Et puis Atlanta, il y a Todd Gurley qui est free agent. Je crois qu'il y a aussi Brian Hill qui est free agent.
Oui.
Donc du coup, forcément, se pose la question. En plus, il y a des jolis clients cette année, donc pourquoi pas au deuxième tour si tu as un Najee Harris qui est disponible, ou sinon après plus tard.
Il me semble qu'on était plutôt d'accord sur Javonte Williams de North Carolina.
Oui, on était aussi d'accord sur Javonte Williams au troisième tour, exactement.
Joueur que j'aime beaucoup. Ouais, je vous invite à le voir, hein, parce que c'est vrai qu'il formait un tandem de choc à North Carolina avec Michael Carter, mais autant Carter, je le trouve peut-être un peu petit. Alors, ça l'empêchera pas d'être performant en NFL, mais Javonte Williams, c'est vraiment, je trouve, un profil physique adapté à la NFL. Il a des changements de direction et un gabarit qui paye pas de mine, en tout cas par rapport à d'autres. Hein. Il va pas autant impressionner qu'un Najee Harris. Mais quand on sait que c'est un joueur qui est arrivé, entre guillemets, sur la pointe des pieds du côté de Chapel Hill, qui était la doublure sur le papier de North Carolina, je trouve qu'il a vraiment pleinement explosé. Et en effet, en début de troisième tour pour Atlanta, s'ils arrivent bien entendu à considérer les autres besoins, notamment en défense, ça peut vraiment être une très très bonne affaire à surveiller. On en vient au scénario du quarterback. Alors, je sais que tu n'étais pas friand de cette possibilité parce que tu voyais les trois principaux QB annoncés draftés aux trois premières positions par le biais d'un trade, bien entendu, pour le troisième choix des Dolphins. Si pour toi, s'il n'y a pas de quarterback choisi au troisième choix, si Miami choisit de drafter le meilleur joueur disponible, par exemple, il y a un QB qui te ferait effet? Enfin, je sais pas. Moi, je sais que, pour avoir écouté Terry Fontenot, le nouveau general manager des Falcons, a priori, on est reparti sur une stratégie du meilleur joueur disponible, ce qui n'était pas forcément le leitmotiv de Thomas Dimitrov. Est-ce que pour toi, un Zach Wilson, ça peut être le meilleur joueur disponible à ce moment-là, par exemple?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Là-dessus, au niveau du poste, il n'y a aucun problème. Au niveau du joueur, il n'y a aucun problème. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Zach Wilson. Il vaudrait bien un choix numéro 4 de la draft sans problème. Et puis, on pourrait construire l'avenir avec lui. Mais si je suis sceptique, c'est parce que je pense que Matt Ryan a encore au moins deux bonnes saisons dans les jambes. Et je trouve peut-être un petit peu prématuré, surtout en faisant venir un nouveau coach, etc., de tout chambouler. Donc moi je les verrais plutôt aller sur notre poste, mais sinon oui effectivement Zach Wilson. Ah oui.
Voilà. Après les besoins sont pas non plus monstrueux. Hein. Je pense qu'au niveau des cibles, on s'en sent pas trop mal a priori du côté d'Atlanta. Il y a une escouade de linebacker assez intéressante, mais voilà. Peut-être le poste de safety, puisque tu parlais tout à l'heure de Patrick Surtain. Il y a cette interrogation sur le poste de safety, sachant que Keanu Neal et
Davante Kazi.
Merci, Davante Kazi sont free agent. Il y a peut-être aussi la possibilité que Ricardo Allen soit une cap casualty, comme on le dit assez souvent, un dommage lié au cap. Mais c'est là où il va falloir savoir si c'est plus la question du free ou du strong qui interpelle le front office des Falcons. J'avoue que j'avais mis une pièce sur Talanoa Hufanga. Le safety de USC, à voir à quelle position, parce que voilà, ça peut osciller entre le deuxième et le troisième tour en fonction de ce qu'on aime sur le joueur. Il y a d'autres profils extrêmement intéressants, un Paris Ford par exemple qui est plus cogneur sur le poste de strong. Et en termes de free safety, il y a quand même, je trouve, pas mal de, si on veut trouver son bonheur, il y a quand même de quoi faire entre Trevon Merrick de TCU, André Cisco de Syracuse, entre autres. Je sais que t'aimes bien Richie Grant également de UCF, donc il y a de quoi faire. Franchement, si on cherche des safety un peu polyvalents et capables de briller, notamment sur le poste de free, je pense que Atlanta a les moyens de le faire. Donc voilà, quelques axes intéressants du côté de cette équipe des Falcons. Mais ouais, je pense priorité quand même edge rusher et running back, en attendant bien entendu de voir ce qui va être fait, notamment lors de la free agency.
Oui, là-dessus on est d'accord. Mais du coup, tu vois, moi j'ai donné mon avis, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu prends Zach Wilson?
Ça peut se tenter. Hein. Moi,
oui, ça, ça peut, mais...
Qu'est-ce que tu fais, toi?
Voilà.
Je peux être tenté par Zach Wilson, ouais.
Ok. Et donc, tu le mets en couveuse derrière Matt Ryan ou...
Pourquoi pas? Bah, ça va être un peu risqué de le laisser partir, de trader Ryan sans avoir de solution derrière. Donc, oui, je pense que si Atlanta a la possibilité, faudra... Quitte à avoir une petite année de transition et derrière préparer ta free agency pour bien entourer Wilson, pourquoi pas, ça peut se tenter.
C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Non, mais je veux dire, voilà.
Ce sera mon dernier mot en avril. Ce sera mon dernier mot en avril.
Ah, ok. Bon, on verra. Ça va.
Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur la draft à venir des Texans et des Falcons. On termine cette émission, comme chaque semaine, par les pépites.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Et on termine donc par les sleepers, les pépites, comme vous préférez les appeler en l'occurrence, nos joueurs qui peuvent éventuellement surprendre à partir du quatrième tour selon nous. Je crois que tu as pris la direction d'un programme qui s'est mis en évidence cette année. Il y a quelques prospects hein, qui t'ont tapé dans l'œil manifestement du côté de Coastal Carolina, parce que tu nous avais parlé, sauf erreur de ma part, de CJ Marable il y a quelques semaines de ça.
C'est ça.
On part en défense et avec un lineman défensif, justement.
Je suis resté dans le thème.
CJ Brouwer, joueur des Chanticleers, qu'est-ce que tu lui trouves?
Ah, ben, je lui trouve beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui est très athlétique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force de pénétration. C'est quelqu'un qui, ça fait déjà 4 ans qu'il produit au niveau universitaire. Alors, c'est sûr, c'est en 2020 qu'on l'a remarqué, puisque la saison de Coastal Carolina était fantastique. Mais ça fait 4 ans qu'il joue très, très bien. Je trouve que il a les mains violentes, tu vois.
Il J'adore, forcément.
Il a la rapidité. Il a vraiment beaucoup de choses. On dirait qu'en fait, il vit derrière la ligne d'engagement. Il est tout le temps en train de chasser un running back ou d'aplatir un quarterback. Il a des stats extraordinaires. Par contre, ce qui le dessert un petit peu, et c'est la raison pour laquelle il sera sans doute disponible au 5e ou 6e tour, c'est un petit manque de gabarit. Voilà. Alors bien sûr, on ne parle pas non plus d'un petit gars, hein. Il fait 1m88, 125 kilos. Mais pour le niveau NFL, c'est ce qui le dessert un petit peu. Voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, dans une rotation, même s'il joue que allez, 15-20% des snaps défensifs, il va apporter quelque chose. Parce que justement, il a cette capacité à être très disruptif, de vraiment… il met le dawa sur la ligne, quoi, en fait. Il est tout le temps en mouvement, il a beaucoup de qualité.
Ouais, et alors je sais plus si tu l'as donné, mais ouais, au niveau pour insister, tu me disais ouais, il avait fait 18 plaquages pour perte, c'est ça dernières saisons.
C'est ça.
Même s'il y a eu une ligne assez intéressante du côté de Coastal Carolina ces derniers mois, faut quand même le faire. En effet, dans une équipe qui reste jeune et qui est clairement pas qui était en tout cas jusqu'à récemment clairement pas l'épouvantail de la conférence dans laquelle elle évolue. Tu le voyais plutôt au Colt, je crois, non?
Ouais. Moi, je l'aime bien. Je l'aimerais bien au col parce que je trouve qu'il ressemble un petit peu au profil que prend Chris Ballard. Mm-hmm. C'est-à-dire que souvent, il va chercher des gars qui sont pas forcément connus, mais qui ont ce côté-là un petit peu physique, ce côté-là un peu blue collar, travailleur. Et je trouve qu'il correspond bien à ça, quoi.
Oui, non, c'est sûr. Je te rejoins et ça va faire partie, en effet, de ce contingent de lineman défensif bien, bien difficile à séparer les uns des autres.
Oui.
En l'occurrence. Ouais. Alors moi je suis parti plutôt sur un attaquant, encore un joueur de la Sun Belt d'ailleurs.
Hein. Ouais.
C'est fou ce qu'on a comme sleeper dans la Sun Belt cette année, c'est incroyable. À Arkansas State, Jonathan Adams, receveur de son état. Alors malheureusement j'ai plus ses stats sous les yeux, mais en tout cas, alors Jonathan Adams, c'est un joueur qui a pleinement explosé cette année puisqu'il est devenu receveur numéro 1, même si l'année dernière en tant que numéro 2 il avait déjà fait des super stats dans le jeu très offensif et surtout très aérien des Red Wolves. Alors, on va dire que d'un point de vue physique, il y a des choses intéressantes. C'est un joueur assez grand. C'est un joueur qui peut aller à la baston. En termes de bataille à la réception, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et voilà, encore une fois, face à des press corners, je pense pas que c'est quelque chose qui lui fasse peur. C'est un joueur qui a, on va commencer dès à présent à dire ce qui en fait concrètement un sleeper. C'est pas un joueur très rapide. En tout cas, sur le poste de receveur, ça peut lui poser problème. Ça a été encore plus criant dans un système offensif à Arkansas State où on l'utilisait beaucoup sur des passes très rapides, très profondes, où forcément, il fallait qu'il fasse la différence rapidement et en termes de capacité de séparation, c'est pas forcément ce qu'il mettait à l'avantage, même si je trouve qu'il a d'excellents comebacks. C'est là où je le trouve assez intelligent, c'est qu'il est quand même capable, malgré ce, de s'adapter à ce que lui propose le cornerback et à éventuellement proposer une solution de dernière minute à son quarterback. Donc c'est là où je pense que ça peut être un joueur extrêmement dangereux, plus dans les zones intermédiaires que vraiment sur le jeu profond. Et c'est là-dessus où je le vois peut-être se développer en tant que receveur de possession. Mais c'est sûr que c'est difficile d'occulter éventuellement le fait que son panel de tracé soit pas mirobolant et surtout que sa vitesse puisse être un frein relatif en NFL.
Oui, ben c'est pour ça qu'il sera disponible au cinquième ou au sixième tour, quoi. Mais tu vois, quand tu m'as parlé de ce joueur, moi, j'avais pas trop fait attention. J'avais vu quelques images, notamment du quarterback, la nature, mais j'avais pas trop fait attention au receveur. J'ai un petit peu checké et ouais, j'ai été impressionné parce que tu lances un highlight et puis tu vois un catch à une main et puis tu vois un deuxième catch à une main et puis un troisième catch à une main et puis tu vois beaucoup de catch contestés où il prend le dessus parce que justement, il a de la force, il est costaud. Et ouais, c'est une vraie belle affaire, moi je trouve.
Oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais voilà, il a quand même des mains quand même assez fiables.
Ah oui, ça, c'est oui. Ah oui, il est impressionnant à ce niveau-là.
Donc je pense qu'en tant que receveur, ouais, un bon receveur numéro 3 au moins la première année, je pense que ça peut être vraiment un joueur qui peut vraiment permettre à une escouade de receveurs d'être de vraiment exploser. Voilà, je sais pas quelle comparaison je pourrais prendre. Encore une fois, je suis pas très très doué. Mais tu vois, si on prend un exemple, un Gabriel Davis à Buffalo, par exemple.
Exactement. Oui, c'est ça.
Il est peut-être moins rapide que l'ancien joueur de UCF, mais en attendant, la présence de Davis du côté de Buffalo, qui était clairement pas le receveur numéro 1, ça a quand même permis aux Bills d'avoir une escouade extrêmement fournie et du coup d'être injouable sur de nombreuses rencontres dans le domaine aérien. Donc, Jonathan Adams peut être un de ces joueurs-là qu'on récupère en effet peut-être fin cinquième, début sixième, et avec lequel on peut se frotter les mains.
Ouais, exactement. Ouais, pour sa fiabilité, puis c'est un contre un. Donc ouais.
Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire donc sur cette émission consacrée au linemen défensif et à la draft notamment des Texans et des Falcons. Merci en tout cas, Jean-Michel, d'avoir été en ma compagnie. C'était comme toujours un plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission dès la semaine prochaine. A priori, normalement, ce sera Victor aux commandes. Je ne sais pas avec qui il sera, mais vous retrouverez a priori Victor Roulier. Vous ne le voyez pas, mais j'ai mon technicien qui avait un petit doute également. Qu'on salue bien, d'ailleurs.
J'ai un mot dont je peux parler cette semaine. Bonjour.
Bonjour.
Ok, merci à toi, Grégory.
Bah, merci. Et puis, passez d'ici là une très bonne semaine avec les playoffs.
C'est ça, notamment. Bon week-end à tous, là.
Voilà,
oui.
Bon week-end, plein de bons matchs et à très vite. À plus.
Fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.